Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous allons parler de ces nouvelles mesures sanitaires qui ont été annoncées pour les écoles du Québec à partir de jeudi. Je vais vous demander d'entrée de jeu comment vous évaluez les impacts que ça aura sur vos jeunes, sur votre vie familiale également. On sait, secondaire 4, secondaire 5, les jeunes vont devoir aller à l'école seulement une journée sur deux. Donc, la journée scolaire, ils devront porter le masque, comme les élèves du secondaire, toute la journée. Et l'autre journée, ben, va falloir qu'ils s'arrangent pour être autonomes, responsables. Ça va leur demander d'avoir beaucoup d'autonomie également. Vos jeunes sont-ils prêts pour ça? Il y a plein de choses. Donc, on rajoute une couche par rapport à tout ce qui s'est fait, ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Je vous donne nos numéros d'entrée de jeu pour pouvoir participer à notre discussion. Dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. De l'extérieur, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Martine Larose est mère de deux jeunes, une fille de 18 ans au cégep, une autre de 11 ans au primaire, deux garçons également en secondaire 5 et en secondaire 3. Bonjour Martine.
Allô Isabelle.
Ça fait beaucoup de monde à gérer, tous ces jeunes-là. Oui. Ça fait une belle maisonnée en même temps. Avec ces nouvelles directives, Martine Larose, quels seront les impacts, d'après vous, sur votre vie de famille et sur la façon dont les jeunes vont aborder l'école et les classes?
Mais c'est sûr que c'est une logistique. Donc, tu sais, j'en ai quatre et les quatre ont une particularité au primaire, au secondaire et au cégep qui est différente dans les quatre cas. Pour mes deux garçons, mon plus vieux, il a 16 ans, donc il est en secondaire 5. Et justement, je parlais avec lui hier pour voir, bon, une journée sur deux, il va être à la maison. J'essayais de le sensibiliser à dire, ben maman sera peut-être pas là à tous les jours parce que, bon, je fais une partie de télétravail quand même. Mais il y a des journées où il va se retrouver à la maison toute seule devant l'ordinateur. Et je lui disais, ben c'est ta dernière année au secondaire, donc est-ce que tu réalises que si tu n'es pas présent dans tes Zooms, si tu n'es pas assez effectif, ben c'est ton année qui va être compromise. Donc, il dit non, je le sais, maman, je le sais, je comprends. Puis, donc, c'est comme un peu l'inconnu pour lui en même temps, un peu stressant, mais en même temps, comme il l'a vécu dans la pandémie au printemps passé, donc il a eu un bref aperçu de ça. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. En même temps, c'est la réalité où on voit les cas augmenter. Et ils ont quand même, en tout cas, je parle pour les liens, là, ils ont quand même une certaine peur de se dire ça parce qu'on voit que ça augmente, on voit que la transmission est beaucoup plus communautaire dans les écoles et tout. Et donc, ils veulent vraiment participer à toutes les mesures qui sont mises en place pour essayer de freiner la transmission le plus possible.
Ouais. Est-ce qu'il vous parle, Martine, de ce que pensent leurs amis? Est-ce qu'ils ont des discussions entre eux à savoir de quel côté de la clôture ils sont? Parce que c'est un peu comme nous, les adultes, hein? Il y a des pour, il y a des contre, il y en a qui trouvent qu'il y a des mesures démesurées, justement. Il y a des, ou au contraire, c'est important pour tout le monde de suivre les consignes. Est-ce qu'ils ont ce genre de discussion entre eux?
Ben, je ne sais pas si on l'a discuté entre eux, mais mon garçon m'en parle souvent. Et je pense que, en tout cas, de la déduction que je fais, des discussions que j'ai avec lui, c'est que je pense que ça part des parents, parce que nous, on est très sensibilisés à ça, moi puis mon conjoint. On en discute souvent lors du souper à la table avec les enfants, on les implique, on regarde les points de presse ensemble et tout. Et donc, mes enfants sont impliqués là-dedans, veulent participer, veulent faire leur part, ne veulent pas attraper, évidemment, le virus. Mais souvent, mon garçon me dit, « Ben, maman, ben, mes amis sortent, là. Mes amis, eux autres, le portent pas toujours, le masque. » Et là, j'avais comme la réflexion de dire, « Mais je pense que ça doit... » J'imagine que ça doit partir du parent. Ouais. Comment le parent éduque son enfant ou comment le parent implique son enfant là-dedans aussi. Si le parent est pas d'accord avec ces mesures-là, mais j'imagine que ça a un impact sur l'enfant aussi. Mais mon garçon est très concerné à ça. Puis il me dit, « Mais mes amis, des fois, ils le portent pas. » Mais moi, ça me dérange pas. Moi, je le porte pareil. Parce qu'à quelque part, ben je pense qu'il y a... comprend l'importance d'eux. Puis aussi, ben, il y a le modèle que nous, on lui donne aussi, qui fait en sorte que...
Mais je pense que c'est très vrai, Martine. Ça vient beaucoup. L'exemple parental a quand même son poids, là, a quand même son influence. Si vous me permettez, je vais présenter Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. Il est directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Et sur sur Facebook, hier, il a posté un message que j'ai trouvé intéressant. Où, bonjour, Joël Monzé. Vous nous disiez que vous trouviez que c'était extrêmement triste pour les adultes balado et vous cherchiez la logique derrière qui guidait la direction de la santé publique.
Oui, parce qu'en fait, on sait que c'est certain que les jeunes qui sont infectés éventuellement par le COVID, on a 50% des jeunes à partir de 14 ans. Donc, on sait que le 14-20 ans est un moment charnière. En même temps, il faut toujours essayer de peser le pour et le contre ou le moindre mal, rechercher le moindre mal. Est-ce que le moindre mal, c'est qu'éventuellement nos jeunes soient éventuellement en contact avec le COVID et réduisent, par exemple, leur contact physique avec les personnes qui sont vulnérables, notamment leurs grands-parents, ou est-ce qu'on préfère à ce moment-là faire une mesure assez drastique, mais qui pourrait conduire certains adolescents à augmenter d'autres problèmes comme le décrochage scolaire, l'augmentation de l'anxiété, la dépression, le risque de toxicomanie, qui sont toute une série d'effets collatéraux que je suis certain que nous essayons tous de les limiter, mais que nous devrions pouvoir mettre dans la balance par rapport aux mesures qui sont annoncées pour des enfants et des adolescents.
Ouais, vous posez la question, vous dites, est-ce que la décision donc de la direction de la santé publique est basée sur une question de santé ou c'est une décision politique?
Oui, parce que est-ce qu'on peut se poser aussi la question, est-ce que, par exemple, quand on voit certains adultes ont de la difficulté à suivre les consignes, est-ce qu'on n'a pas décidé de taper sur le clou sur les adolescents pour essayer de donner la mesure aux adultes, là aussi? C'est toutes ces questions-là. La dernière chose que je voudrais faire, c'est d'être dans les bottines de M. Legault, parce que je pense que c'est très complexe de pouvoir gérer tout ça. Mais en même temps, moi, ce que je vois chez les adolescents, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies à faire pour eux, parce qu'il va y avoir des effets collatéraux. Comme je disais tout à l'heure, les enfants, par exemple, qui ont des difficultés d'apprentissage, je crois que ce sont des enfants qui ont besoin d'être à l'école tous les jours, surtout en secondaire 4, secondaire 5, au moment où c'est les derniers mètres avant de passer au cégep éventuellement et d'aller chercher un diplôme qualifiant. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de les perdre ceux-là? Alors, qu'est-ce qui est le plus grave? Qui contracte le COVID ou qui décroche scolairement?
Qu'est-ce qui est le plus grave?
Mais moi, je pense que présentement, avec ce qu'on sait des effets du COVID sur leur santé au niveau de l'adolescent, je pense que il faut se tenir compte des mesures sanitaires, il faut encourager l'usage, mais de tout le respect en fait de toutes les mesures. Mais je crois que le maintien de nos jeunes dans les classes, le maintien de nos jeunes durant la semaine et éventuellement même d'enlever le masque pendant qu'ils sont en cours, je crois que ça fait partie pour moi de la solution pour encourager la réussite scolaire. Je pense que les pédiatres ont été très très clairs hier à ce niveau-là.
Vous êtes d'accord avec leur évaluation qui craignent une quatrième vague bien plus dévastatrice. Je les cite, à leur avis, c'est déjà amorcé d'ailleurs, décrochage, dépression, toxicomanie, cyberdépendance, troubles alimentaires, peur incontrôlable, distorsion de la pensée. C'est ce qui est énuméré dans le communiqué de l'Association des pédiatres là, qui a rendu ça public hier et qu'on entend beaucoup depuis 24 heures là-dessus. Nous, on posait la question d'ailleurs hier matin à nos auditeurs, on a discuté du fait que on sacrifiait d'une certaine façon une partie de notre santé mentale au profit de notre santé physique. Puis je veux dire, c'est valable en partie, mais en totalité, il y a peut-être un danger, là, Joël Monzé.
Oui, tout à fait. Et c'est toujours l'évaluation, le moindre mal, il est où? Et probablement que le moindre mal pour certaines personnes qui ont une santé fragile et qui sont à risque de développer éventuellement des effets secondaires ou des effets de la COVID très graves, ces personnes-là doivent être retirées. Donc, il faut les protéger au maximum. Mais pour les autres personnes, il faut accepter que le virus, présentement, on n'a pas de vaccin, donc il faut accepter que le virus circule pour qu'on ait une immunité collective. Et ça, je pense que le docteur Arruda l'a dit à de nombreuses reprises, que pour l'instant, on a tellement peur que éventuellement on engorge nos hôpitaux qu'on n'ose plus que le virus circule. Mais alors à ce moment-là, on fait quoi? Est-ce qu'on va durer ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans? Parce que le vaccin, même si, malgré les belles promesses, je ne suis pas certain qu'on l'ait au printemps prochain.
Ce qui est difficile, c'est de comprendre vraiment où sont les foyers d'éclosion et ce qui sous-entend, là, on parle beaucoup de la science, là, on l'a beaucoup mise à profit. Là, dès qu'il y a une question, on brandit la science comme réponse à tout. Quand on fait ça, ça serait le fun d'avoir des données. Hein? Moi, j'aime bien quand il y a des statistiques. J'adore les statistiques. Je trouve toujours que c'est éclairant. Vous allez me dire, on peut toujours leur faire dire ce qu'on veut. C'est aussi vrai. Mais dans ce cas-ci, ça fait des jours qu'on pose la question, où sont les foyers d'éclosion? Est-ce que vous expliquez, vous dites les écolosions, justement, les éclosions, écolosions, vous dites sont plutôt faibles. En tout cas, on n'a pas de données comme quoi là, il y a plein de COVID dans les écoles secondaires du Québec.
On a des données, malheureusement. On a des données, en fait, qui disent qu'actuellement, sur 101 écoles qui sont infectées, où il y a des classes, tout au moins, qui ont été fermées à cause de jeunes ou d'adultes qui ont été diagnostiqués positifs au COVID, sur 101 classes, il y en a deux où ce sont des clusters, dans le sens que c'est l'origine du foyer d'éclosion et de l'école et pas de l'extérieur. Donc, dans 99 des 101 écoles, ça vient de quelque chose extérieur. Ça vient d'une fête, ça vient d'un rassemblement à tel endroit. Donc, il y a plein d'options différentes, mais d'avoir des émergences de cas à cause de l'école, il n'y a que deux cas où ça s'est passé, et ça, la santé publique le sait.
Mais alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'était bien là?
Je reviens à la question que j'avais tantôt. Est-ce que c'est une décision politique ou c'est une décision de santé? Est-ce qu'actuellement, on fait la morale aux adolescents parce qu'on a la difficulté à faire respecter les consignes aux adultes? J'ai vu personne déchirer sa chemise parce qu'en Gaspésie, il y a des gens qui sont allés jouer au bingo et on se retrouve avec une zone qui est devenue rouge à cause, parce qu'il y a eu un cluster à cause de cette activité de bingo.
Mmh. Donc, vous dites, on utilise les ados parce qu'on pour les pointer du doigt, parce qu'on n'ose pas pointer du doigt les adultes, ou en tout cas, quand on le fait, ça marche pas.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Oui, c'est pas très... C'est pas évident.
Non, mais c'est pas évident. Et moi, je pense que la sensibilisation fait partie des choses. Et il faut. Puis l'autre chose aussi auquel moi je m'inquiète, c'est de voir les examens du ministère qui vont s'en venir et la pression qui existe sur les professeurs pour amener nos jeunes avec 3 ou 4 mois de retard parce qu'il y a eu une fermeture au printemps. On a des classes qui sont à risque d'être fermées ou qui vont fonctionner à moitié, en fait un jour sur deux. Et cette pression de performance va maintenir là. Et c'est à cause de cette performance-là qu'on va avoir des problèmes.
Là, vous parlez d'examen du ministère. Évidemment, ça, c'est loin, là, juin prochain, mais je vois
pas... C'est pas loin quand on fait peur aux ados pour l'instant.
Oui, c'est ça. Et déjà là, je peux vous dire, je vois mal comment on pourrait... C'est un peu chaotique quand même, là, l'école, là, depuis le début. Là. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, moi, mes ados vont très bien, ça se passe... Ben, tant mieux vraiment, mais je peux vous dire qu'il y en a plein pour qui ça va pas bien. Là. Alors, on peut toujours montrer des cas, puis oui, j'imagine qu'il faut le savoir aussi que dans certaines familles, il n'y a pas de problème, mais il y a beaucoup, beaucoup de familles qui ont des enjeux, déjà avant COVID, qui avaient des enjeux avec leurs jeunes, leurs adolescents. Je veux dire, tout ça, là, c'est exacerbé aujourd'hui, là.
Tout à fait, et c'est tenir compte, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, essayer de trouver il est où le moindre mal, et ça c'est une réflexion éthique, c'est qu'il peut y avoir des opinions qui viennent de la santé publique, il peut y avoir des opinions qui viennent de la politique, il faut tenir compte des aspects sociologiques, mais il faut surtout qu'on ait une réflexion éthique et essayer de trouver où est-ce qu'il est le moindre mal et de s'assurer en fait, de regarder en fait vers où conduire nos jeunes, parce que nos jeunes, quelque part, ils ont beaucoup moins de ressources que nous, les adultes, on a beau dire qu'ils s'adaptent, alors ils vont s'adapter, mais à un moment donné, leurs limites psychologiques vont être frappées. Et puis, combien de jeunes on va se retrouver sous médication pour être capable de fonctionner dans notre école? Et je suis certain que tout le monde essaye de faire le mieux possible. Je lance la pierre à personne. J'aimerais tellement pas être à la place que je disais tantôt du premier ministre qui doit prendre des décisions. Mais en même temps, moi, je vois les jeunes qui sont à risque.
Ouais, je sais que vous devez nous quitter, Joël Monzé, mais un commentaire qu'on peut donner là, un outil. J'allais dire un conseil, mais je pense qu'on aime mieux se faire outiller aux parents là qui ont des jeunes, des ados, secondaire 4, secondaire 5, qui vont se ramasser une journée sur deux tout seul avec le monde Internet qui va s'ouvrir à eux, le parent qui va être peut-être être obligé de ne pas être là pour travailler. Qu'est-ce qu'on peut dire là, au niveau de l'encadrement?
Écoutez, soyez les plus humains possibles avec vos jeunes. Acceptez que parfois, ils vont claquer la porte 10 fois dans votre maison parce qu'ils vont devoir extérioriser toute la tension qu'ils auront accumulée pendant leur journée d'école. Acceptez que parfois, ils vont peut-être être plus rudes dans leur manière de répondre quand vous leur donnez une consigne. Et dites-vous que souvent, ben, le problème vient de l'extérieur de la maison. Donc, et soyons bienveillants envers eux. Accompagnons-le avec le plus de cohérence possible. Essayons de les aider à faire les meilleurs choix possibles. Donc, mais ça repose sur la discussion, sur l'échange, sur la sensibilisation. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir arriver à prendre leur envol et devenir des jeunes hommes et des jeunes femmes pleins de promesses.
Ils ont besoin de nous, là, en ce moment, là, plus que jamais, là.
Tout à fait. Et c'est notre bienveillance qui va leur permettre de passer à travers tout ça.
Ouais, merci beaucoup, Joël Monzé, d'avoir pris le temps de nous parler. Joël Monzé, docteur en neurosciences, directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, qui nous disait donc, c'est triste pour nos ados, mais on peut les aider toutefois. On peut les aider comme parents, comme éducateurs, comme oncle, tante. La famille élargie là, peut aider l'ado. Ça peut être le voisin, ça peut être... bon, là, vous allez me dire, les coachs. J'entendais quelqu'un ce matin qui disait, pour mon jeune, là, son coach de hockey ou de soccer, il faisait partie, fait partie de la famille. Là, il peut plus avoir accès à ça. Et c'est vrai que c'est triste parce qu'au-delà du fait que en 4 et 5, par exemple, les jeunes vont aller à l'école une journée sur deux, donc il va y avoir une perte de il va y avoir une coupure hein, tous les deux jours là, par rapport au milieu scolaire. Ça va demander de l'adaptation constante. Et en même temps, ben, il pourra pas se retourner vers des activités sportives parascolaires parce que ça, jusqu'au 28 octobre, c'est annulé. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Puis s'il y a des jeunes là, qui nous écoutent entre deux cours, on va vous donner la parole, bien sûr. S'il y en a qui sont au cégep, à l'université, vous pouvez nous joindre également. Puis les parents, est-ce que vous vous sentez... Comment vous vous sentez par rapport à ça? Avez-vous l'impression d'être assez outillé, de pouvoir être assez présent pour votre jeune, pour pas qu'on les échappe, nos jeunes, nos enfants? À Montréal, vous faites le 514-790-9850 et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. 50 ans par au secondaire, faut pas s'en passer d'éphémère, mais comme a dit M. Molière, gagnons-nous faire dans cette galère, pour ceux qui trouvent la soupe amère, plus sucré sera le dessert. Alors, avec ces nouvelles mesures sanitaires qui ont été annoncées pour les écoles, et ce, à partir de jeudi, entre autres, que les jeunes de secondaire 4 et de secondaire 5 iront à l'école une journée sur deux. Les jeunes devront également porter le masque en classe en tout temps. Il va y avoir des impacts, bien sûr, sur leur santé mentale, santé physique aussi, parce qu'on a coupé le sport scolaire, entre autres, activités parascolaires. Bon, je sais qu'on a coupé les gyms aussi pour leurs parents, et ça aussi, c'est mal vécu. Mais je vais vous demander quels seront les impacts sur vos jeunes, d'après vous, et sur la vie familiale en général. On a Annie qui est avec nous, qui a justement deux jeunes à la maison. Bonjour, Annie.
Oui, bonjour, Madame Maréchal. Je trouve ça vraiment extrêmement triste pour les jeunes. J'ai l'impression que nos jeunes sont pris en... Ce sont des cobayes dans cette affaire-là. Ils avaient commencé à développer là des activités sportives à l'école et là, on leur coupe ça. Et surtout dans les collèges à Montréal, ils sont déjà très, très exposés à l'Internet parce qu'on les oblige à avoir les fameux iPads à partir du secondaire 1. Alors, je pense que d'être à la maison, ça va développer encore plus là, cette dépendance-là. Et moi, ce que je trouvais bien depuis le retour à l'école, comme dans les collèges à Montréal, souvent, ils ont des salles là, pour se réunir en deux. Et ce que c'était, au fond, c'est qu'ils regardaient l'Internet, là, ils jouaient à des jeux vidéo en groupe. Là, c'est ça qui se faisait dans les années passées. Et là, étant donné que c'était plus possible, ben ils allaient dehors, ils jouaient au soccer, ils avaient commencé à faire de l'activité physique. Et ça, je trouvais ça que c'était très, très bien. Et au niveau psychologique, ça va créer des peurs, ça va être difficile à surmonter. Moi, j'ai une fille de 13 ans qui est convaincue qu'on va tous mourir du COVID. Et malgré le fait qu'à la maison, on n'écoute pas les nouvelles, les radios sont toutes éteintes, on n'écoute même plus de musique pour ne pas entendre la petite nouvelle sur le COVID entre les deux chansons, les informations continuelles sur le COVID, et elle est convaincue, elle est complètement traumatisée avec le COVID, malgré qu'on essaye de les protéger le plus possible, les isoler de l'information.
Ouais.
Évidemment, ils suivent toutes les consignes religieusement. Ils portent le masque, ils font attention, ils se mettent, tout ça. C'est pas eux qui créent la problématique dans la société. Il y a combien de pourcents de personnes qui décèdent? Il y a 1%, 2% des personnes âgées, des personnes déjà malades. Qu'on isole ces personnes-là, que l'on protège ces personnes-là, dans les résidences de personnes âgées, que l'on mette toutes les mesures extraordinaires que l'on puisse inventer pour protéger ces personnes-là et les autres qui sont pas en résidence, ben, qu'on leur dise, voici, vous avez 70 ans, vous êtes à risque, etc. Faites attention. Et puis, s'ils sortent, ils font des activités, tout ça, ben, ce sera à leur risque et péril et de dire aux gens, et moi, je comprends pas pourquoi on n'impose pas le masque à l'extérieur, tout le temps, à tout le monde, le masque à l'extérieur. Et continuer la vie normalement et bien informer les personnes à risque, bien protéger ouais. les personnes à risque. Mm-hmm. Mais ces personnes-là, pas imposer au restant de la société toutes des
Vous trouvez qu'on tape trop sur les jeunes là, en ce moment, en fait? Vous trouvez qu'on tape trop sur les jeunes?
Je pense que c'est ouais. une génération qui va être des cobayes. Déjà, ils ont une ouais. dépendance à l'Internet absolument incroyable avec le iPad à l'école. Là. Ouais. C'est un vrai fléau. Là. Ils pensent plus par eux-mêmes. Ils sont plus capables de parler. Ils sont plus capables d'écrire. Sérieusement, ils sont plus capables d'écrire. Merci. Ils ont plus de livres dans les écoles. Ils ont plus d'intérêt pour rien. Il y a rien qui les intéresse à part...
Il y en a quand même qui ont des passions, évidemment. Là, mais c'est vrai qu'en ce moment, si on a des passions, mais qu'on ne peut pas les exercer, c'est là que ça devient difficile. Merci beaucoup, Annie. Sandra est avec nous. Bonjour, Sandra.
Bonjour. J'ai deux adolescents, un en secondaire 3, un en secondaire 5, qui vont dans deux écoles différentes. Les deux ont un cas de COVID à l'école. Celui qui est en secondaire 3, c'est la semaine passée qu'on a su qu'il y avait un premier cas. Je vous dirais que le matin, où est-ce que je suis allée le reconduire à l'école, parce que je veux pas que mes enfants prennent l'autobus, alors je vais les reconduire. Il a pas aimé ça, aller à l'école, en sachant que là, il y avait du COVID. Il y avait une peur. Moi, je pense que, tu sais, on parle de décrochage, on parle d'anxiété, de dépression. Je pense que l'incertitude, c'est pas le fun pour nos ados. Je pense que beaucoup de monde, on sait très bien qu'après le 28 octobre, pour les secondaires 5 et 4, ça va être encore une journée sur deux. Moi, je crois qu'il faut enlever des cours pour qu'il y ait moins de monde à l'école, pour qu'il y ait moins de cours à l'école, pour qu'il y ait moins de jeunes en même temps à l'école et essayer de donner une stabilité. Je crois qu'il faut faire des sacrifices et de sacrifier les cours d'art plastique, de musique, d'éthique et culture religieuse, d'histoire et de géographie. Je pense que là, on peut faire ce sacrifice-là jusque en juin prochain et dire on va se concentrer sur les maths.
Vous voulez leur enlever le fun, là, il va rester maths, français, anglais.
Ben puis les sciences pour les préparer pour le cégep. Mais moi, en tout cas, Madame Maréchal, je peux vous dire que le cours de musique et d'art plastique, je suis pas sûre que c'est ce que mes enfants préfèrent à l'école.
Ah, peut-être les ventes, ouais, mais ça dépend des jeunes. Je pense que l'art c'est important aussi. Ça fait des bonnes personnes, des personnes qui ont un côté artistique développé. Si on n'avait que des scientifiques dans la société, je sais pas. Je pense que ça prend un tout, un bon mélange de tout ça. Puis c'est ça qui fait aussi la culture générale. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut leur en mettre moins sur les épaules. Après, merci beaucoup, Sandra. Après, est-ce qu'on nous a prouvé jusqu'à maintenant, là, puis on a le droit de poser cette question, puis moi, j'ai toujours pas la réponse, est-ce que l'école est un vecteur important de transmission communautaire du virus? Si quelqu'un a la réponse, donnez-la moi. On la pose, cette question. Il n'y a pas de maudite réponse. C'est-tu compliqué de répondre à ça? Est-ce que l'école est un vecteur? Je vous rappelle que Joël Monzé nous a dit que tout à l'heure, ce que lui appelle les écolosions ou les éclosions, là, pour faire le jeu de mots, sont relativement faibles. Il parlait des 101 écoles secondaires, puis qu'il y en a finalement deux qui ont dû être fermées pour cause de COVID. Ça veut dire 2%. Est-ce que ça mérite tout ce branle-bas de combat dans les écoles? Ou bien, dans le fond, c'est pour protéger le corps enseignant. Puis ça peut être valable aussi. Là. C'est toutes des choix de société, là, ce qu'on se dit ce matin. Là. On peut tout décider, là, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Puis moi, j'aimerais ça que ça soit basé sur quelque chose. Moi, je veux savoir, est-ce que l'école, c'est vraiment un endroit là, où ça se passe la COVID? Il me semble que depuis une semaine, ce qu'on entend de la part des directions d'école, c'est que c'est pas tellement à l'école, c'est à l'extérieur de l'école, où il y aura pas de contrôle. Fait quand même qu'on leur dit, vous irez pas à l'école une journée sur deux. J'entendais le ministre qui disait, on va essayer de contrôler, ça va nous permettre d'économiser un espèce de 20% de contact. Pas sûr de ça, moi. Les jeunes, on n'arrête pas de le dire là, depuis quelques jours. Les jeunes, ils trouvent toujours une façon de court-circuiter la règle, comme bien des adultes, je rajouterais. En tout cas, je vous lance là-dessus parce que, je veux dire, c'est pas simple. Et en même temps, je trouve qu'on en met beaucoup sur les jeunes. On leur en met beaucoup sur le dos. On les pointe pas mal du doigt, je trouve, depuis quelque temps, comme si on avait oublié qu'il y avait du monde aussi adulte qui manifestait, qui était contre le masque, qui pense pas que ça soit vrai, tout ça. Donc, on peut peut-être lâcher les jeunes un peu 5 minutes, s'occuper de nos affaires. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Un père, Alexandre, nous appelle. Bonjour Alexandre, vous avez deux adolescents chez vous, puis une problématique supplémentaire, c'est que votre aîné reçoit des traitements contre le cancer.
Oui, bonjour. En fait, votre sujet m'a beaucoup interpellé. Là, j'écoutais et puis c'est la première fois que j'appelle dans une émission comme ça, mais ça venait vraiment me chercher. C'est déjà un défi hein, pour tout le monde de dealer avec tout ce qui se passe présentement au niveau du COVID. Imaginez deux secondes, ma fille de 16 ans a reçu un diagnostic de cancer fin juin, début juillet. Et bon, ben en plus d'avoir un système immunitaire très down, très bas, reçoit les traitements de chimio, a son cercle social complètement fermé depuis plus longtemps qu'un peu la majorité des enfants. Mm-hmm. On a un fils de 13 ans qui, lui, veut continuer ses activités, doit continuer d'aller à l'école, mais c'est assez angoissant là, de savoir que le COVID peut rentrer dans la maison par l'entremise de son frère, comme ça. Là. Donc,
vous sortez pas du tout, vous comme père, vous sortez pas du tout de la maison?
Non, j'étais en télétravail, mais là, pour les besoins de la circonstance, je suis même en arrêt de travail là, pour aider ma fille dans tout ça. Non, les sorties sont très, très limitées, très contrôlées. C'est le strict minimum. Puis on se croise les doigts là, que tout ça se passe bien, puis que le COVID n'entre pas dans la maison. Donc, quand j'entendais la dame parler là, des discussions qu'elle avait avec ses enfants, puis vraiment les faire participer dans tout ça, mais j'appréciais beaucoup parce que c'est des gestes qui peuvent faire une différence pour des familles qui sont comme la mienne, là, où il y a des gens à risque, mais nous, dans notre cas, c'est une adolescente à risque. Donc, si le port du masque est respecté, si tout ça est pris avec un degré encore plus élevé de sérieux, ça peut venir nous aider, nous autres aussi.
Oui, c'est sûr. Mais ça vaut pour les écoles comme pour la société en général.
Ah oui, absolument. Absolument.
Ouais. Fait que les gens qui font la ligne au Costco, pas de masque, ça doit vous frustrer beaucoup quand même.
Oui, où les gens, justement, j'étais allé faire l'épicerie il n'y a pas longtemps, puis j'ai même vu quelqu'un retirer son masque pour tousser à l'extérieur du masque avant de le remettre. C'est ça. Je peux pas me mettre à intervenir individuellement parce que j'en finirai plus, mais oui, c'est tout ça qui est fâchant, là, puis on a un niveau de un degré de vigilance encore plus élevé probablement à cause de la situation qu'on vit.
Oui. Mais écoutez, bon courage, Alexandre, en tous les cas, avec votre fille de 16 ans. Je trouve ça épouvantable, ce qui vous arrive. Là. Je pense que c'est pire que tout, entendre dire qu'on a un enfant qui a le cancer. Puis je vous souhaite tout le meilleur là, pour le rétablissement de votre adolescente.
C'est ça. T'sais, quand on se compare, on se console. Là. Je sais qu'il y a des gens pires que nous dans d'autres situations. Mais en même temps, les gens qui trouvaient ça difficile à la maison, imaginez deux secondes, je suis en train de faire un aller-retour là, maison Children's pour aller chercher les choses d'école de ma fille puisqu'elle doit recevoir une transfusion de sang là parce qu'elle se fait opérer demain une triple greffe. Donc, quand on se compare, on peut se consoler des fois. Là. Les défis sont différents.
Ouais, ben écoutez, on vous envoie toute l'énergie la plus positive possible pour vous et votre famille. Merci à vous, Alexandre. Wow! Ça, c'est assez dramatique comme genre de nouvelles à recevoir dans une famille. On a avec nous Elliot Gignac. Son nom vous dit peut-être quelque chose. C'est ce jeune étudiant qui a lancé une pétition pour dénoncer l'annulation des activités parascolaires et civiles. Elliot étudie en études internationales et langues modernes à l'Université Laval. Jusqu'à maintenant, sa pétition a presque atteint 40 000 signatures. Il travaille aussi à temps partiel dans un magasin de sport où il porte le masque en tout temps. Bonjour, Elliot.
Bonjour.
Comment vous avez accueilli donc ces nouvelles mesures sanitaires là, annoncées pour les écoles qui vont entrer en vigueur jeudi?
Ben, c'est sûr qu'on espérait qu'ils peut-être reviendraient sur leur décision parce que je crois qu'il y a quand même un moyen de pouvoir pratiquer les sports d'équipe tout en respectant les règles de distanciation sociale. C'est faisable. J'aurais vraiment aimé ça qu'ils reviennent sur leur décision. Leur proposition de 3 semaines d'arrêt, je pense que ça sera pas facile, surtout pour les jeunes au secondaire qui ont vraiment besoin des sports pour pour pouvoir se concentrer tout simplement à l'école lorsqu'ils étudient.
Ouais. Avez-vous l'impression que tous ceux qui disent, par exemple, qu'on utilise les jeunes en ce moment comme des cobayes, quelqu'un disait ça tout à l'heure, Joël Monzé, le spécialiste, nous disait que on s'en servait des jeunes pour les pointer du doigt du non-respect de règles sanitaires que même les adultes ne respectent pas. Dans le fond, c'était une espèce de cible pour détourner du vrai problème. C'était le vrai problème étant qu'il y a trop de gens qui ne respectent pas les règles un peu partout dans la société. Êtes-vous d'accord avec ça?
Absolument. Je trouve que les jeunes ont eu le dos large depuis le début de la pétition, puis je trouve ça juste injuste de cibler en tant que tel un groupe de personnes, que c'est peu importe le groupe d'âge, en fait, pour n'importe quel problème. Peu importe le groupe d'âge, il y a toujours des gens qui ne respecteront pas les mesures. Je pense pas que les jeunes méritent de se faire autant cibler. Surtout que, oui, effectivement, je trouve qu'ils ont été les cobayes, beaucoup. On les a renvoyés à l'école au printemps dernier pour les élèves du primaire pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Après ça, pour les élèves du secondaire, je vous dirais, comme je travaille dans un magasin de sport, j'ai beaucoup de gens qui venaient acheter l'équipement pour le début de la saison. Puis à chaque 2-3 jours, on m'arrivait avec des parents qui étaient jamais sûrs de comment allait se dérouler la saison parce qu'à chaque 2-3 jours, on changeait les règles. Au début, on voulait l'annuler. Ensuite, finalement, ça allait avoir lieu 3 jours plus tard. Ça allait avoir lieu, mais s'il y avait un cas dans l'école, on cancellait. Donc, ils ne savaient jamais sur quel pied danser. Donc, ça ne doit pas être facile psychologiquement pour ces jeunes-là qui, à chaque jour, doivent se demander si ils vont pouvoir pratiquer leur sport ou non. Mmh.
Est-ce que vous pratiquez un sport vous-même, Elliot?
Oui, je joue au hockey, au soccer aussi. Là. Je ne joue plus dans les associations civiles, je suis rendu trop vieux, mais ligue de garage, comme on peut dire.
Oui, puis le sport a toujours fait partie, eu une partie importante dans votre vie de jeune, d'ado?
Exactement. Au secondaire, j'étais en sport-études. Maintenant, je continue quand même à jouer hockey-soccer 3-4 fois par semaine. Puis c'est sûr qu'en temps de pandémie, justement, à l'université, tous les cours sont à distance. Donc, je suis pas mal enfermé dans ma chambre en train de faire mes cours toute la semaine. Donc, les activités sportives sont mal ma seule sortie qui m'aide justement à rester concentré au moins pour les cours qui sont à distance.
Vous allez vous tourner vers quoi, donc, pour les 3 prochaines semaines?
C'est une excellente question. J'ai pas encore pensé à ça. Probablement, comme au printemps dernier, peut-être les sports un petit peu plus individuels, comme la course. Il n'y a pas énormément d'options qui s'offrent à nous, mais c'est sûr qu'on va essayer de trouver quelque chose.
Oui, effectivement. Ben, écoutez, merci. Merci de prendre le temps de nous parler. Votre pétition, en tout cas, semble avoir attiré beaucoup de gens, près de 40 000 personnes. Tenez-nous au courant de la suite des choses. Elliot Gignac, donc 24 ans, étudiant, instigateur de cette pétition là, qui dénonce l'annulation des activités parascolaires et civiles. Ça, beaucoup de gens aussi s'opposent à ça. Hein. Parmi les parents, il y en a qui reconnaissent que c'était leur moment. Aussi, il y en a qui faisaient des activités également avec leurs jeunes. Il y en a beaucoup de parents qui pratiquent des sports avec leurs jeunes. Il y a beaucoup de parents qui sont des coachs. Si vous êtes touché par ça, puis si vous trouvez que c'est peut-être pas la meilleure chose que le gouvernement ait choisi de faire, vous pouvez me le dire. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, vous pouvez le dire aussi. Là, on est là pour vous entendre, vous donner la parole. 514-790-9850 1-866-790-9850. On revient avec vos commentaires et la conclusion sur ce sujet tout de suite après ceci.
Un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant.
Il y a Karine qui est mère de 2 ados secondaires, 1 et 4. Elle dit avec ses restrictions aux jeunes, j'ose espérer que les attentes académiques à leur endroit ne resteront pas les mêmes, surtout secondaire 4 qui est l'année la plus difficile. Ça me dérange vraiment de voir ces décisions prises sans vraiment consulter des experts. On dirait de laisser erreur. C'est frustrant quand on suit les règles et qu'on voit des décisions qui semblent plus ou moins aléatoires. Beaucoup de parents semblent être de l'avis de Karine. Puis elle a raison. Les années secondaire 4, secondaire 5 sont charnières pour les jeunes. Secondaire 4, là, tu joues quasiment ta vie avec tes notes, ton examen du ministère. En 5, c'est tes notes qui vont décider de ton acceptation au cégep. Il y a un stress incroyable. On l'a vécu comme jeune, puis nos jeunes le vivent aussi. Puis ça ne s'est pas amélioré. Puis sincèrement, en ce moment, j'en vois pas tant que ça, moi, des enseignants qui ont baissé les attentes. Vous allez me dire, bien, on veut pas non plus, on veut que l'année compte. Oui, mais en ce moment, est-ce qu'on peut faire comme d'habitude? Tout est différent. Il va falloir un peu mettre de l'eau dans le vin aussi, là, parce que il y a des jeunes en ce moment qui sont notés de façon très sévère par des profs extrêmement stressés. On a Farid qui nous appelle. Vous avez deux jeunes au secondaire. Farid, bonjour. Comment vous voyez ça?
Oui, bonjour.
Oui, on vous écoute. Secondaire et cégep, hein, on me dit?
Oui, parce que le cégep est collé au secondaire Édouard-Montpetit. Donc, il y a le secondaire Jacques Rousseau, puis le collège Édouard-Montpetit qui sont collés à l'un à l'autre. C'est ça. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu de cette souffrance des enfants qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis nous aussi, parfois, on est pris avec ça. Hein? Mm-hmm. Donc, mais ce que je comprends pas aussi, c'est qu'on est comme focalisé juste sur des pays qui ont des problèmes. Alors qu'on ne voit pas d'autres pays qui sont quand même, qui ont réussi à sortir de ce problème de COVID et tout. Je pense qu'on parle moins, par exemple, de la Suède, qui est vraiment un exemple. C'est vrai qu'ils disent que ils sont très disciplinés. Mm-hmm. Je comprends ça, mais c'est quand même un exemple à prendre, comment ils ont géré. Moi, j'ai vu des documentaires sur la Suède.
Ouais.
Ils sont capables quand même de gérer ça. Là. C'est vrai que c'est controversé parce que ils suivent pas tout le monde dans le même chemin.
Merci Farid. Viviane, vous avez une fille au secondaire?
Oui, exactement, un quatrième secondaire. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
J'ai beaucoup de difficultés avec ce concept de sacrifice générationnel. Depuis hier, je m'arrache les cheveux. Écoutez, la vie est pas facile en soi, on le sait, mais ceci étant dit, on ne vit pas un génocide, on ne vit pas une guerre mondiale et on vit tous une situation qui est exceptionnelle. Je pense que nos jeunes, il faut leur faire confiance, mm-hmm. Ce sont des adultes en devenir. OK, ma fille, je la vois fonctionner, je vois ses amis, il faut leur faire preuve, c'est ça, il faut faire preuve de confiance envers eux et je pense qu'en étant des adultes rassurants, évidemment, c'est du jamais vu pour tout le monde, mais je pense qu'en étant rassurants, tout est une question de perception. Hein. Si on pense au film La Vita è Bella, là, il y a quelques années,
oui.
Ben, c'est une question de perception. On peut leur donner cette confiance-là, de dire, ben oui, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vécu ça, mais soyons autonomes, soyons résilients, ce sont toutes des belles qualités. En tout cas, pour ma fille, comme mère, c'est un apprentissage. Je pense qu'elle peut en profiter de cette situation-là pour être encore plus forte et ne pas craquer à la moindre difficulté. Moi, j'ai l'impression que là, on pense que tous nos ados sont finis, ils vont être en difficulté. Ben non, il faut leur faire confiance.
Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont une attitude un peu... Il y a des adultes... Moi, je lis les commentaires de bien des gens, je vous avoue, là, Viviane, et merci du vôtre. Et il y a beaucoup de gens qui me paraissent peu empathiques à l'endroit des jeunes. Il y a beaucoup de gens au Québec qui pensent que quand un jeune a 16 ans, il est capable de s'arranger tout seul, puis il y a bien des parents que ça les gêne pas de faire payer un loyer à leur jeune, considèrent qu'à partir de 16 ans, t'es autonome. Moi, je vois pas l'éducation de nos jeunes comme ça, là. Mais vraiment pas. Mais après, bon, tu peux être un parent qui a pas beaucoup de moyens, vouloir la collaboration de ton jeune, je comprends. Mais leur dire, ben là, arrange-toi que t'es trop, le gars, moi, j'ai mes problèmes à régler, gère les tiens. Je trouve pas que c'est une attitude rassurante, ni encadrante. J'en reviens à la conclusion avec mon invité Martine Larose, qui a 4 enfants à la maison. Je pense qu'on disait, Martine, d'entrée de jeu, que ça part des parents. Vous le disiez avec beaucoup de justesse. Comment les impliquer sans leur faire peur? Ça, c'est une autre chose. On veut pas qu'ils soient traumatisés par ça non plus, cette COVID. Mais en même temps, je pense qu'il faut leur donner du temps. Moi, c'est ce qui m'apparaît être une des choses essentielles par les temps qui courent. Il faut trouver plus de temps avec nos jeunes.
Oui, ben je pense que la dernière personne qui a parlé, ben, en tout cas, d'une partie l'a bien dit, où l'implication du parent fait toute la différence et c'est d'être hyper rassurant. Puis en même temps, c'est vrai, nous, on a un oncle de 85 ans qui parle qu'il a fait la Deuxième Guerre mondiale et les enfants sont rivés à ses lèvres qui explique ça. Puis là, souvent, mes enfants me disent, ben maman, nous, on va avoir vécu ça, on va raconter ça à nos enfants. Et en même temps, oui, c'est sûr que c'est peurant, mais en même temps, entre moi, je ne les considère pas cobayes, mes enfants, ils vivent ça, on vit tout ça, puis je pense que c'est un effort de collectivité, de tous s'entraider ensemble, puis de s'ajuster à chaque pas qui sera fait, parce que je pense que même que les décisions qui sont faites, il n'y a pas de guide nécessairement qui dit quelle décision doit être bien prise au bon moment. Donc, je pense que c'est d'emblée faire un effort collectif, de tous s'unir ensemble, puis de dire, ben, nos jeunes font partie de ça aussi. Puis, en tout cas, moi, je pense que c'est important de les impliquer le plus possible.
Ouais.
Mais le parent a aussi un gros rôle à jouer là-dedans d'accompagnement et de. Et, ben, je pense que c'est M. Joël qui l'a dit, et de bienveillance.
Oui.
Je pense que ça reste le mot d'ordre.
Tellement. C'est une magnifique conclusion, Martine Larose. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci à tous ceux, surtout celles, hein? On dirait que l'éducation au Québec, c'est beaucoup les femmes, ça a l'air. Pour moi, les gars étaient allés jouer au soccer avant que ça finisse. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.